Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, l'automne est vraiment là. C'est l'occasion d'aller dans les salles de cinéma. C'est Cinérama qui vous parle de cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et bien pas bonjour Marine qui ne sera pas là cette semaine et sans doute pas la semaine prochaine, mais qui reviendra un peu plus tard. Après tout, elle a le droit de ne pas être là. Moi, j'ai été absent à peu près 3 semaines, je crois.
Voilà. À peu près, ouais. Ouais. 3 émissions. Ouais.
Alors, un sommaire bien soutenu. On va parler du Cinémed, effectivement, alors avec notamment Paolo Zucca. Il y aura aussi La Nuit de l'Enfer, tu vas nous en parler.
Donc, La Nuit en Enfer avec 4 films de Brian De Palma.
Et puis, on parlera aussi, alors peut-être, de la venue de Gilles Jacob. Donc, c'est le directeur du Festival Cinémètre qui était très heureux de recevoir Gilles Jacob, qui était hier dans le quorum. Hein, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de spectateurs intrigués par cette figure du Festival de Cannes. Voilà, mais ça, c'est si on a le temps. Et puis, sinon, un dernier mot, c'est sur Argento.
Alors sur Argento, dans le cadre donc de la soirée Halloween, le Diagonal présente donc Dracula 3D, malheureusement pas en 3D parce que les salles du Diagonal ne sont pas équipées, et je crois que c'est demain à 22h.
C'est ça, et c'est Cinérama qui débute avec Gravity.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Grand événement, hein, Gravity, blockbuster,
oui, grand événement,
100 millions de dollars, 4 ans.
4 ans, oui. D'ailleurs, Cuaron n'avait rien fait depuis 2006, hein, presque 7
depuis
ans.
Depuis Les Fils de l'Homme.
Depuis Les Fils de l'Homme, de 7 ans d'inactivité. Donc précédé d'une réputation plus que flatteuse, hein, un grand coup de superlatif dithyrambique, suivi d'un succès explosif au box-office américain, Gravity débarque en France et s'impose avant même que quiconque ne l'ait vu comme le chef-d'œuvre incontournable de la SF ou l'un des chefs-d'œuvre. Le meilleur film jamais tourné en 3D, un défi technique hallucinant au point que le référent en la matière, James Cameron lui-même, s'interroge encore sur le processus de la fabrication du film, ne comprenant pas comment le Cuaron ait pu tourner certaines séquences.
Magnifique, tu trouves pas ?
Quoi ?
L'aube. Une merveille.
Plutôt visuel, hein, on peut le préciser.
Oui, oui. La bande-annonce, elle ne dit pas grand-chose, en fait.
Non, au niveau sonore, en tout cas.
Bon, la tournure promotionnelle un peu excessive, à mon avis, hein, il serait le film au niveau 2001 ou de Solaris. C'est ce qu'on a un peu entendu.
Le Solaris, mais de Tarkovsky.
De Tarkovsky, ou... oui. Un tel abattage n'est pas sans risque. Le seul, peut-être, c'est la déception, qui est inévitable. Et là, ça ne loupe pas. Pourtant, Gravity impressionne dès ses premières images, tout en apesanteur d'une beauté et d'une puissance inédite. Cuaron nous immerge dans l'espace comme peu de cinéastes avaient réussi avant lui. S'ouvrant sur un plan séquence magistral de 16 minutes, Gravity ne cache pas la simplicité de ses enjeux, ce qui n'est pas un défaut, car nous sommes d'entrée captivés par un survival spatial qui titille des sensations rétiniennes rarement éprouvées dans une salle obscure récemment. La caméra flottant tout en arabesque sinueuse du génial chef-op Emmanuel Lubezki, qui était déjà le chef-op de Malik sur ces trois derniers, mais aussi sur Sleepy Hollow et Ali. Il fait vraiment des merveilles. Hein. Bref, Lubezki est un magicien de la caméra et son travail sur Gravity est vraiment somptueux. Comme en plus que Aaron est un vrai cinéaste, un formaliste qui pense ses films avant tout en termes de mise en scène, de défis visuels, le résultat impressionne le plus rétif aux films de SF de consommation courante. Bon, le spectateur est tour à tour subjugué, fasciné, on est même terrifié par des séquences plus hypnotiques les unes que les autres dans cette œuvre où Sandra Bullock et George Clooney doivent affronter, non plutôt se confronter à des carcasses de vaisseaux spatiaux, des morceaux de météorites, enfin je sais pas si c'est des météorites.
Ah non.
Pas du tout,
c'est des satellites en
des
fait.
Des satellites, ouais. Voilà. Et des cadavres de spationautes aussi. La grande inquiétude face à un tel pari est l'ennui. Or, sur ce plan, on reste scotché sur notre fauteuil. Ce voyage dans l'espace est palpable, joue sur nos sens les plus immédiats et s'impose comme une expérience inédite, d'autant qu'une fois n'est pas coutume, la 3D s'avère pertinente et réussie. Enfin, l'une des plus belles, à mon sens. Hein.
Et au bout d'un moment, on l'oublie même, sauf quand il y a certaines projections qui nous viennent dessus à grande
scène spectaculaire. Ouais. Moi, j'ai tourné la tête une ou deux fois comme ça. Bon, si en termes de pur spectacle, graphique et visuel, le résultat est stupéfiant, Gravity déçoit un peu quand même par son récit très terre-à-terre, n'évitant pas les lourdeurs symboliques et une religiosité prosaïque. Le choix de Sandra Bullock est même surprenant. Comment une actrice aussi transparente s'est-elle retrouvée la tête d'affiche d'un projet si ambitieux ? Il s'agit sans doute pas d'un compromis, tant l'actrice a déserté les écrans et n'est absolument plus bancable. Enfin, moi, je trouve que c'est un choix très curieux. Enfin, toutes les séquences, peu nombreuses, heureusement, où elle se lance dans des monologues sur la perte de son enfant, sur son envie d'en finir ou de continuer à vivre, sont assez mièvres. L'épilogue, que je ne dévoilerai pas, s'enlise même dans une ode à la vie un peu pesante, avec une musique pompière pénible, alors que j'aimais vachement le thème musical un peu symphonique électro. Et bon, voilà. Malgré ses défauts narratifs, bon, Gravity, c'est quand même une sacrée claque, hein. C'est cinématographique, un projet assez unique, mais bon, ça pêche un peu au niveau du récit. Hein.
Oui, il y a le récit, il y a les dialogues, effectivement, qui parfois sont assez anecdotiques. Il y a cette volonté de mettre ce personnage féminin. Bon, si elle se retrouve dans l'espace, c'est parce qu'elle a voulu devenir seule, enfin, être seule. Donc là, elle se retrouve vraiment confrontée un moment à la solitude. Donc, il y a quelque chose qui se développe là-dessus. Le récit se développe sur ce thème-là. Mais c'est vrai que les dialogues sont... Enfin, on souffre des dialogues, vraiment.
Et j'ai l'impression que Caron, là, du coup, a peur du vide, a peur du silence. C'est-à-dire que son film ne comporte quasiment, pour un film où quelqu'un est isolé dans l'espace, ça cause énormément. Et puis, quand ça ne parle pas, il faut mettre immédiatement un thème musical derrière. Le film a très peu de silence. Et là-dessus, un film comme 2001 est beaucoup plus puissant.
Oui. Parce qu'il y a vraiment une gestion du silence, effectivement, dans 2001. Les notions de distance aussi dans 2001. Mais là, il y a les distances de plans qui sont très bien gérées dans Gravity. Notamment, tu parles de ce plan séquence qui nous amène à des plans larges, des plans serrés. Ce qu'on avait déjà vu dans Les Fils de l'Homme, hein, où il y a deux plans séquences vraiment remarquables qui sont faits par Cuaron. Enfin voilà, donc lui, il sait réaliser, il sait mettre en scène. En revanche, là, j'avoue que du point de vue du scénario, comme tu le dis, c'est un peu terre à terre et un peu raté, même si c'est très immersif. Et c'est moi ce qui m'a intéressé, effectivement, avec la 3D. J'ai trouvé que la salle était quand même bondée. C'était un samedi soir, je suis allé le voir samedi. La salle était bondée, ça ne mouffetait pas. Enfin, vraiment,
non, ça ne mouffetait pas. Voilà. Même moi, j'ai amené mes enfants, il y avait plein de gamins.
Tu veux reprendre du popcorn ? Non.
C'est un film tout public. Bon, à la fin, ils m'ont quand même dit il est grave, E.T.
Il est
Gravity.
Ah, petit jeu de mots.
Petit jeu de mots.
Allez, c'est pour vous, chers auditeurs. Voilà, donc Gravity, c'est à voir. Ça marche très, très bien. Il y a des grandes queues qui se font devant les cinémas. Et ça fait rire la technique dès qu'on dit le mot queue. Enfin, pour dire l'esprit un peu de ce mercredi matin. Et donc, voilà, on en a fini. On pourrait faire toute une émission, je pense, sur Gravity, mais on va pas le faire.
Bah non.
Et on va plutôt faire un blind test que j'avais pas annoncé dans le sommaire, mais vous allez pouvoir jouer avec nous. Un petit blind test avec ce thème, seul, quelque part, ou au milieu de nulle part. Voilà, donc ça, c'est le thème du blind test, parce que ça reprend...
Pas forcément dans l'espace ?
Pas forcément dans l'espace. Allez, premier extrait.
Est-ce qu'il faut que tu les ramènes toujours avec ça ? Tu peux pas oublier, hein ? T'avais raison. Tu avais raison, c'était une bonne chose de faire un essai pour que ça n'ait pas été un petit crash. Je me serais échoué sur les rochers. Je me serais cassé une jambe, mon dos, mon cou. Vidé de mon sang. C'était la seule possibilité que j'avais à l'époque, tu comprends? C'était il y a, quoi, un an? Alors, oublions ça.
Alors, ça a été trouvé en régie. Ah. Et toi, Manu, non?
Non, j'ai pas trouvé.
Alors, c'est Seul au monde.
Ah.
Et oui. Et là, il parle à son ballon de volet qu'il a grimé en personnage. Deuxième extrait.
Franchement, est-ce que tu crois vraiment qu'ils nous ont plantés là parce qu'on était en retard? Réponds-moi! Est-ce que tu te rends compte de la bêtise de ce que tu dis?
Alors, c'est moi qui suis bête! Seulement, on est bien au milieu de la mer!
Ah oui, c'est vrai, oui. Et à cause de moi, c'est ça!
Tu as refusé de nager! Mais enfin, il y avait des bateaux partout autour de nous et tu as refusé! Et maintenant, regarde! Regarde autour de nous, on est largués au milieu de l'océan, avec personne à l'horizon!
Même si on avait nagé pendant plus de 5 heures, on ne serait pas plus près d'un bateau qu'on ne l'est maintenant! Et la vraie raison pour laquelle on se retrouve ici, c'est ton putain de boulot!
Quoi?
Oui, c'est à cause de toi qu'on a été forcé de foutre nos projets à la poubelle et d'organiser à la dernière minute ce putain de voyage de merde!
Alors, seul, un peu au milieu de nulle part...
Open water.
Voilà. Alors là, c'est plus l'espace, hein, comme dans Gravity, mais là, cette fois-ci, c'est le Pacifique, l'océan Pacifique.
D'ailleurs, film dont on se demande comment une expédition, comme ça, ils aient pu oublier deux personnes dans l'eau.
Mais on y croit quand même. Et c'est plutôt bien réussi, un film qui dure
efficace,
pas très longtemps,
hein,
parce que c'est compliqué au bout d'un moment, effectivement, d'instaurer des dialogues. Ce que fait Gravity, d'ailleurs, voilà, il étire un peu. Mm. Alors, il y a des scènes d'action qui sont beaucoup plus nombreuses dans Gravity, mais il étire aussi avec des dialogues.
Il y a des moyens plus importants aussi.
Eh oui, parce que $500,000 pour Open Water, que je vous conseille.
Il y a un corbeau qui passe tous les matins. Hey. Je l'ai chronométré à 8h17. Je le filmerai pour vous demain. Tous les matins, à 9h30, je reçois 15 minutes de soleil. C'est vraiment génial. J'ai essayé d'ébrécher un peu la pierre, plus pour me tenir réchauffé qu'autre chose. Je commence à penser que ma main soutient la roche. Alors chaque fois que j'en enlève un petit morceau, elle s'enfonce en fait un peu plus. Alors... je me suis trouvé un excellent garant.
Alors, il ne s'agit pas vraiment d'un garant. Ça, j'ai été très étonné par cette VF. C'est un garrot. Hein. La séquence d'après, il s'enroule le bras. Oui, oui, oui. Un garant, c'est quand on fait après ou ce genre de conneries. Oui. Enfin, on est d'accord. Donc, c'est...
127 heures de Danny Boyle.
Voilà, avec James Franco. Donc là, on est d'accord, il est vraiment seul quelque part et dans le gouffre.
Je ne l'ai pas vu.
Ah, tu ne l'as pas vu.
Allô ?
Dana, c'est Paul.
Comment ça va?
Ouais, ça va. Et il faut que je parle à Lina. Elle répond pas au téléphone. Et il faut que je la contacte. J'ai été pris en otage par des rebelles.
Je vous ai bien eu. En fait, je suis pas là. Mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Au revoir.
Donna, il faut que je contacte Linda. C'est une extrême urgence, dis-lui de me rappeler. Fais étoile 69 pour savoir d'où j'appelle et dis-lui de me rejoindre à ce numéro, d'accord?
Paul?
Donna.
Qu'est-ce que tu veux?
Il faut que je contacte Linda, où est-elle?
J'en sais rien, je lui ai pas parlé de la journée, elle s'est censée lui dire.
T'as un ordinateur, parlons-toi.
Oui, pourquoi?
Écoute, je voudrais que tu me trouves un numéro de téléphone, le département d'État.
Non, en fait, j'allais partir faire des courses, j'ai vraiment pas le temps.
Il faut que tu me trouves ce numéro.
T'es sûr que ça va?
Non, ça ne va pas du tout, alors trouve-moi ce
Change
numéro.
Change de temps ou va te faire
Enfin, voyons, non, je suis pas du tout.
T'es en
non,
train de crier.
Ah, donne-moi ce putain de numéro
tu...
bon, Donne-moi ce numéro Donne-moi ce putain de numéro Merde Pauvre connasse Va te faire foutre Va te faire foutre Va te faire foutre, sape Va te faire foutre Va te faire foutre
Allez, c'est pour vous, chers auditeurs. Donc, il n'est pas content, effectivement, il appelle quelqu'un. Il dit bien qu'il a été pris en otage. Non seulement, il blague téléphonique et après, il s'engueule avec son ex. C'est...
Je ne sais pas.
Alors, il est enfermé dans un cercueil. Il
dans
est enfermé sous terre.
C'est pas Buried ?
Si, voilà.
Ah,
c'est ça.
D'accord.
Donc là, c'est un peu... c'est pas l'immense espace, au contraire. Là, c'est vraiment l'espace ultra réduit.
D'accord. Je ne l'ai pas vu non plus.
Eh ben, c'est un rattrapage quand même pour toi, Manu.
Ouais.
Et voilà, c'était la fin de ce blind test, à moins qu'il y en ait encore un.
Ah, remarque comportementale. Un mâle contaminé s'est exposé à la lumière solaire aujourd'hui. Il est possible que l'altération de leur fonction cérébrale ou la pénurie croissante de nourriture inhibe leurs instincts de survie élémentaires, j'en sais rien. La désocialisation semble totale. Tout comportement humain normal est à présent totalement absent.
Alors, ça a été trouvé, c'est...
Je suis une légende.
Voilà, il y avait d'autres extraits faciles à prendre. Alors là, effectivement, il est dans un monde où il y a quand même des survivants. Il en parle, c'est des zombies. Alors, on est un peu tout seul et au milieu de nulle part quand on est avec des zombies, non? Enfin, c'est pas une expérience que j'ai eue, mais c'est, j'imagine.
C'est des ghouls dans le roman original signé Richard Matheson.
D'accord. Et ça, tu l'as vu, ce film-là?
J'ai vu ce film. Et j'ai vu aussi la version avec Charlton Heston qui s'appelle Le Survivant.
Alors, bien voilà, cette fois-ci c'est bien terminé pour ce blind test. Et il y a d'autres films que tu as vus, puisqu'on va parler de La Nuit en Enfer. Tu en es un spécialiste.
Cinérama sur Divergence FM.
C'est ce vendredi au Cinémed.
Ce vendredi à partir de 21h. Alors, ils ont procédé à un choix un peu particulier, c'est de passer le premier film à l'Opéra Berlioz au Quorum. Et ensuite, il faut aller courir à Rabelais pour voir la suite. Bon. Je pense qu'ils ont profité du fait que le Scarface, qui est diffusé donc à 21h, est projeté dans une copie restaurée.
Et qui va attirer beaucoup
de monde. Voilà, c'est tout. Donc je m'interrogeais un peu l'an dernier sur la pertinence de rendre hommage à Christopher Lee, ici d'ailleurs, dans le cadre du cinéma méditerranéen, d'autant que sur les 5 films présentés, 2 seulement étaient de nationalité européenne. Alors pour De Palma, ça se complique, bien que l'hommage rendu lors de La Nuit en Enfer, qui aura lieu donc vendredi, ne peut que me réjouir. Un cinéaste quand même américain, sa présence, on peut se dire, c'est uniquement parce que son père, qui n'était pas italien, mais d'origine italienne.
D'accord.
Bon, j'en dirai pas plus. Hein. On peut dire aussi que De Palma a toujours été passionné par les auteurs transalpins auxquels il a rendu hommage de façon consciente, comme Antonioni et Visconti, ou inconsciente, comme Argento. Bon, pas trop de risques pour cette nuit, puisque les 4 films projetés sont des classiques. La présence plutôt incongrue de Scarface est due au fait qu'il s'agit, donc, je le disais tout à l'heure, d'une copie restaurée. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'ascension et le déclin de Tony Montana. Hein, sauf pour dire que Scarface est souvent vénéré pour des mauvaises raisons. Hein, car le film de De Palma n'est pas du tout l'apologie d'un gangster.
De la mafia.
Mmh. C'est au contraire une charge féroce contre l'arrivisme, l'aspect quinquant et même... C'est lui-même qui le dit dans un livre d'entretien, les débuts d'un capitalisme sauvage. Doublé. Alors le film est aussi un opéra baroque, hein, plein de sang et de fureur, qui est magistralement mis en scène. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est d'ailleurs un remake aussi hein, d'un film de Warhol, de 1932. Mmh. Et c'est la même histoire. Hein. Donc les 3 autres films, là, on va donc directement à Salle Rabelais, à partir de 23h45. Là, pour moi, ce sont véritablement les chefs-d'œuvre qui sont des représentations vraiment du style de Brian De Palma. Alors, on va commencer donc par Carrie en écoutant un extrait de la bande originale. Adaptation du premier roman de Stephen King, Carrie frappe par la cruauté avec laquelle De Palma décrit une jeunesse dorée, décérébrée et sans scrupules, tout en dressant un portrait terrifiant de l'obscurantisme religieux. Voilà, au milieu survit donc Carrie, un peu seule contre tous. Bon, le point d'orgue de ce film magnifique, c'est la scène du bal, hein, elle est filmée en ralenti et en split screen. C'est vraiment un morceau vraiment inégalé dans lequel on reste de tout cœur du côté de la pauvre Carrie. Bon, un film qui n'a pas vieilli, idéalement interprété par une Sissy Spacek magnifique, qui avait alors 30 ans. Hein, jouait le rôle d'une fille de 18 ans, elle avait 30 ans.
Ça marche bien. Hein.
Ça fonctionne très bien. Ouais. Hein, elle a un corps vraiment juvénile. C'est vraiment parfait. Alors ensuite, Pulsion, bon, quant à lui, souvent présenté comme la quintessence du film hitchcockien. C'est vrai que d'un point de vue de la structure et des références, pas de doute. Hein, il reprend quasiment un scénario très proche de Psychose, notamment dans la césure au milieu où on bascule d'une histoire à une autre. Et aussi Sueur froide pour l'histoire des doubles. Enfin, bon, c'est un vertigineux thriller, hein, déviant et baroque. Mais en creusant plus loin, moi, à mon avis, Pulsion, c'est un giallo qui rend hommage à tout un pan du cinéma italien de façon un peu détournée. De Palma ne l'a jamais avoué, mais c'est assez flagrant. Et notamment lors de la scène de l'ascenseur, hein, dont je ne vais pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu, qui constitue le morceau d'anthologie du film. Et puis enfin, ben, la soirée se terminera avec Blowout, avec John Travolta. Blow-up, comme son nom l'indique, c'est un peu une variation autour du blow-up d'Antonioni. Mais dans ce thriller politique paranoïaque, De Palma s'amuse toujours à tromper le spectateur. Car la référence principale, c'est pas tellement le film d'Antonioni, mais plutôt Conversation secrète de Coppola. Et aussi quelque chose qui s'est réellement passé, hein, c'est l'assassinat de Kennedy. De Palma a toujours été marqué par ce fait historique. Et Blow-up essaie de retranscrire un peu... le climat un peu paranoïaque qui en découle. Voilà, c'est un véritable film théorique, hein, sur la construction des images et l'association du son avec ces images pour donner un sens à une fiction. Et Blot est aussi, pour moi, un beau film romantique, déchirant et sombre, l'un des plus noirs et les plus tristes qu'il ait jamais réalisé. Donc voilà, c'est quatre films exceptionnels de Palma où il n'y a vraiment là, rien à jeter. Hein, c'est...
Donc c'est au Cinémède, ce sera l'avant-dernier jour du Cinémède, ça commencera donc à 21h avec 21 Scarface, heures. Et puis après jusqu'à 5h du matin, à mon avis.
À peu près.
Voilà. Merci Manu. On passe à un autre film du Cinémède, alors qui lui a été projeté, c'était samedi, c'est L'Arbitro de Paolo Zucca, et comme il repasse ce vendredi 1er novembre, notamment je crois que c'est à 16h, voilà, à la salle du Corum, eh bien j'ai décidé de vous passer un petit entretien avec le réalisateur.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Donc, intanto c'è da dire.
Tout d'abord, si j'avais fait le film en prenant le hockey sur glace ou le basket,
non avrais incontrato, diciamo,
j'aurais pas rencontré une transversalité sociale aussi large.
Non existe le basket des.
Le basket des pauvres, ça existe.
Cioè, sì, esiste, però non.
Ça existe, mais.
Ma non è così emblematico.
C'est pas emblématique. Voilà.
Poi c'è da dire che il calcio, diciamo,
foot, pour les Italiens,
è un universo così conosciuto.
C'est un univers tellement connu.
Così codificato, métaphorique.
Codifié, même en sens métaphorique.
Que
plus de la moitié des journalistes qui ont critiqué le film ne sont pas arrivés en Italie à ne pas utiliser les métaphores qu'ils utilisent pour le foot.
Le film a fait un gol, Zucca vince un contre-pied,
a marqué un but, Paolo Zucca gagne à la dernière seconde, et ainsi de suite.
Il y a deux choses qui sont frappantes quand on regarde les images, c'est le cinémascope. Et puis le noir et blanc. Et on a l'impression au début d'être dans un western.
Donc je fais certains cadrages exactement comme il était une fois dans l'Ouest.
Proprio uguale, uguale.
Les mêmes, exactement les mêmes.
Mi sono divertito a usare vari generi.
Mi sono amusé a utilizzare dei differenti genre.
Ho usato il western, ho usato il musical.
No. La farce, avec l'arbitre Moreno.
E ho usato anche
dei toni epici. Aussi.
E anche dei toni.
È un po' tragico.
Perché diciamo.
Donc, parce que l'histoire c'est le haut, le bas, enfin, le jeu, le haut, le bas.
Però anche un gioco orizzontale.
Aussi tra i vari generi. Orizzontale parmi les différents genres.
Il bianco e nero è stato.
Donc, le noir et blanc, c'est un choix dû à la volonté d'abstraction.
Perché io non volevo fare una rappresentazione.
Je voulais pas faire une narration sociologique sur. Sur la corruption dans le foot, le scandale qu'il y a eu en 2006, qui a éclaté en Italie, etc., etc., et tout le monde connaît. Je me suis inspiré à cette histoire qu'on appelait Calciopoli. Je ne voulais pas faire un instant movie, un film de représentation ou de dénonciation. Même chose pour la Sardaigne et la société de bergers, paysanne de la Sardaigne. Je voulais faire quelque chose de plus universel, plus abstrait.
Et anche fuori dal tempo.
Hors du temps.
Et le bianco e nero aiuta molto.
Le noir et blanc aide beaucoup à faire ça.
Voilà. L'Arbitro, donc, c'est une bonne idée, un 1er novembre. Ça peut être assez triste, un 1er novembre. Et donc là, c'est une comédie donc, qui se passe dans la Sardaigne avec deux vieilles équipes de petits villages qui s'affrontent. Et puis, un arbitre dont on voit la déchéance. Voilà. Il y a ces deux images qui s'articulent. Je vous le conseille, c'est à 16h et c'est Salle Pasteur.
Cinérama sur Divergence FM.
Un nouveau film, une
soirée
nouvelle version.
Halloween, oui, soirée Halloween au Diagonal Capitole à 22h avec la présentation d'un seul film, hein, Dracula 3D. Alors, que vaut le dernier Dario Argento? La grande question que se posent d'ailleurs ses anciens admirateurs est sans appel. Dario Argento a-t-il toutes ses facultés mentales? Bon, pour ma part, je pense qu'il va bien, mais malheureusement, il vieillit, sa perte d'inspiration est indéniable. Mais bon, on ne peut pas refaire en boucle des films comme Suspiria et Inferno au désespoir de ses fans. Bon, l'auteur de Ténèbres a tenté de se renouveler, d'expérimenter depuis 20 ans, mais sans jamais vraiment parvenir à renouveler sa grammaire cinématographique. Hein. Donc, que vaut donc Dracula 3D? On sent une ambition réelle, une volonté de dépoussiérer le roman de Bram Stoker, d'en offrir une lecture romantique et moderne, tout en rendant hommage au chef-d'œuvre de la Hammer signé Terence Fisher. Mais bon, cette louable intention est doublée aussi d'une véritable volonté de livrer un bel objet, mais elle n'est jamais convaincante. Hein. Les bonnes intentions sur le papier se transforment en un sympathique nanar, ludique et vieillot, souvent agréable à regarder, pour des raisons parfois un peu inavouables. Dracula 3D se vautre dans le cinéma bis le plus misérable avec ses comédiens de seconde zone, ses effets spéciaux numériques d'un autre âge, son érotisme un peu digne d'un téléfilm M6, et puis surtout ses fausses...
C'est ça que tu veux pas avouer ou...
Oui, c'est ça un peu, des fois j'aime bien ce côté kitsch. Et ses fausses bonnes idées aussi aberrantes, c'est plutôt ça que dégénérer. Et le summum, c'est Dracula se transforme à un moment donné en une mante religieuse, une séquence hallucinante, totalement desservie d'ailleurs par une synthèse déplorable. C'est le problème du bis, hein. Vaut mieux prendre des effets spéciaux à l'ancienne que de la synthèse. Hein.
Ouais.
Donc si on a parvient à oublier, c'est pas facile qu'Argento se trouve derrière la caméra, épaulé quand même par le grand chef opérateur Tovoli, mais qui a dû éclairer récemment trop de films de Francis Weber. On peut prendre un plaisir à suivre cette énième adaptation plutôt fidèle d'un roman inépuisable. Donc joliment éclairé de nuit, le film par contre est catastrophique dès qu'il s'agit de séquences en plein jour en fait. Hein. C'est totalement sabordé par une lumière surexposée assez laide. Voilà, sinon, je n'ai pas grand-chose à en dire. Hein.
Et en plus, il ne sera pas projeté en 3D. Donc...
Il ne sera pas projeté en 3D, voilà, mais bon, c'est un échec, mais on peut prendre un petit plaisir, une petite série B sympathique, on va dire. Si on oublie que c'est Dario Argento qui est derrière la caméra. Ouais.
C'est à 22h05, ce sera au Diagonal, ce sera demain, jeudi 30
jeudi 31.
Octobre. 31.
31.
Ouais. Cinérama.
Ça ne gêne pas si je prends quelques petites notes.
Et justement, on en termine avec l'agenda. Ce seront les 10 ans du Ciné Mistral à Frontignan, avec jeudi 31 octobre à 20h30, la rencontre avec la réalisatrice Dominique Cabrera autour de son film Grandir. Le 1er novembre à 21h, ce sera l'avant-première du film En solitaire avec François Cluzet. Le samedi 2 novembre à 20h, c'est les jeunes de Frontignan qui font leur cinéma. Ce sont des courts-métrages. Il y aura un film en 3D, un film d'horreur, plus un quiz, plus une surprise. Et il y aura un an de cinéma offert aux 500 millième spectateur. Voilà, ce sera à ce moment-là. Et puis j'en suis au jeudi 31 octobre, et cette fois-ci au Diagonal, il y aura l'avant-première de Annie Felici de Daniele Lucchetti. Le lundi 4 novembre à 13h15, il y aura Casanova de Federico Fellini, c'est une séance unique. Et puis une avant-première le lundi 4 novembre, c'est à 19h45, Les Jours Heureux de Gilles Perret. Ce sera bien en sa présence, et il y aura Michel Berthos, président de l'association Tourisme et Loisirs, je ne sais pas pourquoi.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Demain, il y aura Obsession, tu dis, Manu?
Oui, il y a aussi à l'Opéra Berlioz, dans une copie restaurée neuve, Obsession de Palma. Donc, c'est pas dans le cadre de La Nuit en Enfer, hein, mais c'est à 19h. Encore un film absolument magnifique.
Il y a plein de films. Le cinémède se termine ce samedi. La semaine prochaine, on se retrouvera d'ailleurs avec des interviews faites au Cinémède.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.